Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer avec la prise de parole du jour. C'est celle d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites. C'était ce matin, elle était invitée d'Apolline de Malherbe et la Première Ministre a annoncé qu'une décision serait prise avant la fin de la semaine. Écoutez.
Je peux vous rassurer, la décision, avec le Président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
Et pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine
dernière ? Parce qu'on cherche la meilleure voie pour, je vous dis, à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps, avoir laissé la place au dialogue et à la concertation.
Si vous faites effectivement cette réforme, et vous venez de dire qu'il n'était pas question de ne pas la faire, donc ça déjà, l'option ne pas la faire est exclue.
Je vous confirme, et tous ceux qui font semblant de croire qu'il n'y a pas un problème de déficit du système de retraite, je les invite à relire le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est très clair, non seulement il y a un déficit, mais ce déficit se corrige.
Voilà, décision avant la fin de la semaine en ce qui concerne la réforme des retraites, Thibaut Texer, mais en tout cas tout le monde s'écharpe sur le sujet.
Ah oui, c'est un sujet très sensible qui divise le monde politique, on s'en doute bien, à commencer par l'opposition de gauche qui est farouchement opposée. À droite, c'est la méthode qui interroge. Le président doit respecter le dialogue social, expliqué il y a quelques jours Bruno Retailleau. Pour Marine Le Pen, face aux difficultés du pouvoir d'achat qui impacte les Français, il n'est pas urgent de s'attaquer aux retraites. Là où c'est plus surprenant, c'est qu'il existe un ton dissonant au sein de la majorité. Dans une interview au Parisien, Yael Braun-Pivet appelle l'exécutif à réfléchir et prendre son temps, le temps de la concertation sur un sujet aussi important. Dit-elle, un possible passage en force qui ne plaît pas non plus à François Bayrou, allié de la Macronie. Le président du Modem se place sur la même ligne de conduite que la présidente de l'Assemblée nationale. Côté syndicat, la CGT annonce qu'elle fera barrage à un 49-3. Si le gouvernement cherche à passer en force, il trouvera la CGT. Même la CFDT, plutôt modérée, annonce par le biais de son secrétaire général Laurent Berger qu'il s'opposera par tous les moyens à une réforme des retraites qui passerait par un amendement du projet de loi finances de la sécurité sociale. Passage en force ou dialogue, la décision de l'exécutif sur la méthode envisagée sera rendue publique d'ici à la fin de la semaine.
Alors, le gouvernement doit-il foncer sur ce dossier ? Je vais commencer avec vous, Perico Legas.
Je vais sauter une étape sur le fond du problème, de savoir est-ce qu'il faut foncer pour quel type de retraite ? Dans la mare du fagnon rouge de la limite d'âge, on sait bien que l'enjeu, c'est le temps de cotisation en fonction de l'activité. Voilà. Et surtout, nous avons besoin d'emplois qui soient cotisants pour payer la retraite de ceux qui vont arriver. Emploi cotisant, ça veut dire, vous connaissez ma rengaine, des emplois industriels créés. Là, je suis en train de penser à l'instant, en vous écoutant.
Oui.
Et si... Donc, ils vont jouer le 49-3.
Bah, c'est pas sûr, quoi.
Non, mon idée est la suivante. Et ils veulent le perdre pour dissoudre. Je pense que Macron pense qu'il s'est pas mal de dissoudre maintenant. La NUPES est en difficulté. Il y aura une période de crainte.
Parce que vous pensez que
c'est
là,
une hypothèse,
là,
j'ai pensez, pas le moindre élément.
Vous pensez que le parti d'Emmanuel Macron pourrait avoir la majorité à l'Assemblée?
Ils l'ont pas. Bayrou n'ira pas. Le Modem n'ira pas. Sauf s'il y a renégociation totale, c'est-à-dire un autre délai, un autre discours, ce qu'a demandé François Bayrou.
Voilà.
Si c'est avant la fin de la semaine, ils y vont sans le Modem. Mmh. La droite qui pourrait voter n'ira pas pour des raisons de forme. Et donc c'est un risque énorme. Ça veut donc dire qu'elle va mettre 49-3. Quitte au double, quitte au triple, avec le risque de le perdre, dissolution, nouvelle élection, et ça permet à Macron de revenir en scène. Voilà.
J'ai pas le moindre élément.
Je dis, c'est tellement bête de dire, alors qu'elle a pas, sa propre majorité est fragile. Madame Borne qui dit, ça sera décidé avant la fin de la semaine. C'est tellement bête, c'est tellement irresponsable, c'est tellement grave.
Parce qu'on voit pas comment elle peut concerter avant la fin de la semaine.
Je pense que c'est un coup de génie qu'on nous sort de l'Élysée pour on va faire un truc. Parce que là, ça tient pas la route. Elle peut que passer pour une...
Non mais la dissolution, ça tient pas la route non plus. Hein.
D'accord, sauf que là, elle passe pas, elle a pas de majorité. Elle en a pas de façon absolue,
elle est certainement pas sûre d'en avoir une avec la dissolution, excusez-moi.
En plus, quelle urgence ? Le corps vient de dire qu'il n'y a pas d'urgence, les caisses ne sont pas déficitaires.
Mais elle a pas lu les mêmes paragraphes que vous, je pense.
Mais donc, il y a un stratagème politique, il n'y a absolument pas de souci, se foutre de la retraite comme dans l'an 40, il y a un stratagème politique pour faire un coup, je sais pas lequel, mais en tout cas, ça sent mauvais.
Alors Jérôme Lavrieux, vous qui connaissez bien la politique, justement, est-ce que quand même, ce serait pas le moment idéal pour prendre des décisions? Emmanuel Macron ne peut pas être réélu, donc est-ce que c'est pas le moment justement de passer en force et quelque part d'imposer ses idées?
Moi, je pense que la vérité est proche de ce que vient de nous dire Perico, mais pas tout à fait.
Ah.
Je pense qu'il n'y aura pas de 49-3. Tout ça, c'est une histoire d'ego. Chacun montre ses muscles pour apprécier.
C'est quand même nos retraites.
Bayrou dit, Non, mais le problème des retraites, on va le clore tout de suite. Bien entendu, il y aura un allongement de la durée de cotisation et un déport de l'âge minimum de départ en retraite. Tout le monde le sait, y compris les socialistes qui l'ont voté dans les lois quand ils étaient au pouvoir. Et tous ceux qui vous promettent qu'on reviendra à 60 ans, si vous les croyez, ne vous gênez pas, votez pour eux, mais venez pas pleurer après. Parce qu'ils vous mentent. Ça n'est pas possible. Sur la, quand elle dit on va prendre la décision, c'est pas la décision, est-ce qu'on réforme ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de réforme ou pas? C'est comment je fais la réforme? Donc pour l'instant, tout le monde a montré ses muscles. Édouard Philippe dit maintenant, dans un mois, dans trois mois, j'y suis avec vous. François Bayrou, qui a besoin d'exister, avec son groupe Modem, il sait qu'on ne peut pas faire sans lui, dit pas un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, c'est pas possible. Donc que va nous dire dans une semaine Madame Borne? Ce ne sera pas par le biais d'un amendement dans le projet de loi de finances, donc il n'y aura pas de 49-3. Ce sera un texte de loi qui sera à voter en janvier. Et comme ça, tout sera sauf et il n'y aura pas de dissolution. Parce qu'on ne fait pas voter les... S'il y a une dissolution en janvier, mon cher ami, ça veut dire qu'il y a une élection début mars.
Mais c'est ça.
Au plus tard, on ne fait pas voter les gens en mars en France.
Ah bon? Depuis... Mais en avril, ça passe?
En général, c'est au mois de mai que ça se passe parce que
pourquoi
c'est mieux.
On ne peut pas voter en mars.
On a voté en mars déjà.
Parce qu'il fait froid.
Parce qu'il fait froid, qu'il ne fait pas beau et que les gens n'aiment pas faire campagne électorale à ce moment-là. Et moi, je vous le dis, le président ne prendra pas le risque de faire une dissolution. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une seule chose en ligne de mire, c'est les Jeux Olympiques qui sont dans 2024.
Il concourt dans quelle catégorie?
Toutes les catégories, lui, à mon avis. Et je pense qu'il peut avoir la médaille d'or. Il pense qu'il peut avoir la médaille d'or dans chacune des catégories. Et donc, l'objectif, c'est que la France soit pacifiée au moment des Jeux Olympiques et qu'il ne se retrouve pas, lui, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui a voulu faire une dissolution pour convenance personnelle, pour s'assurer une majorité, c'est Jacques Chirac sur les conseils éclairés de Dominique de Villepin. Et ça s'est retrouvé contre lui, ça a moyennement marché. Je pense qu'il n'a pas envie d'arriver en cohabitation à ce moment-là. Ce que je vous dis permettra à tout le monde de sauver la face et d'avoir une réforme en janvier.
Le 49-3, même dans le cours, ça peut faire descendre les gens dans la rue pour vous?
Voilà, je ne sais pas si les gens sont prêts à redescendre dans la rue en ce moment, dans l'état dans lequel on est. Ouais, non, mais la France, elle a changé depuis les Gilets jaunes. Et on est tous un peu plus centrés sur nos nombrils avec des problèmes à régler. C'est drôle parce que vous, messieurs, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, vous êtes partis sur le comment. Et moi, je me suis, en réfléchissant ce matin, je me suis plutôt intéressée au pourquoi. Finalement, pourquoi on a fait cette réforme? Il ne faut pas se leurrer, cette réforme des retraites, elle est également là pour équilibrer les finances de l'État dans son ensemble, pour donner des gages aux créanciers de la France sur notre capacité à réduire nos déficits, afin d'éviter une défiance vis-à-vis de justement notre capacité à rembourser, parce qu'aujourd'hui notre dette,
on la rembourse jamais, la dette, pas. On rembourse que les intérêts.
Ouais, mais pourquoi, Estelle? Parce qu'on nous fait encore confiance. Mais si on creuse sans cesse dans notre déficit, à un moment cette confiance elle va s'étioler. Et quand les taux d'intérêt augmentent, alors ça risque de faire très mal, quand on va avoir du mal à payer ne serait-ce que les intérêts de cette dette. Et donc cette réforme, en fait, c'est un gage qu'on a promis à l'Europe et aux créanciers du reste du monde et qui nous a permis de gérer nos déficits jusqu'ici. Donc en fait, ils n'ont pas le choix. Donc le comment, j'en sais rien. J'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, Jérôme.
Ils
n'ont
pas le choix.
Si,
encore une fois, il y a un excédent de 3 milliards d'euros là.
Non, non.
Mais parce qu'il y a plus de gens qui bossent.
Oui, non, mais ça c'est juste.
Si t'as un chômage à zéro, t'as pas besoin de réformer les retraites.
Estelle, la réforme des retraites, que vous la preniez en décembre ou en janvier ou en février, ça n'a aucun impact pour ceux qui seront en retraite et pour le régime de retraite en 2023. Les premiers effets se font sentir 10 ans après. Donc là, on a un gouvernement qui pense à dans 10 ans. Et sauf qu'il est obligé d'avoir une trajectoire budgétaire sur 10 ans. Et donc là, il est obligé de dire, voilà comment je vais faire pour restaurer mes finances. Il ne peut pas faire autrement. Mais dire, si en janvier, je n'ai pas fait de réforme de retraite, les systèmes des retraites s'effondrent, non. La seule manière dont ils s'effondrent, c'est si on n'a pas voté le budget au 31 décembre à minuit. Et là, on ne peut plus payer les fonctionnaires et la Sécu ne peut plus payer aucune prestation. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une motion de censure qui passe à ce moment-là, parce que là, c'est ce que le lockdown, comme aux États-Unis.
Moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de gens retraités autour de moi qui ont des toutes petites retraites, pour qui c'est compliqué. Moi, je suis prête à travailler plus pour que les petites retraites, parce que c'est ça aussi la réforme des retraites, que les petites retraites soient aidées. Moi, je veux bien travailler 1 ou 2 ans de plus.
Toi, tu veux bien, mais je peux te dire qu'il y a plein de gens qui ont des métiers extrêmement pénibles.
Il faut être solidaire. On est en France dans un système de solidarité.
Mais tout le monde, non, mais d'accord. Mais alors après, je sais que tu travailles beaucoup, mais tout le monde n'est pas journaliste indépendant. Je veux dire, il y a des gens, les gens qui sont maçons, ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à
60 ans. Moi, j'aurais pas de retraite. On me l'a déjà dit depuis longtemps. Donc, après, voilà, donc je travaille pour les autres.
C'est extrêmement pénible et les gens ils sont cassés à
Mais peut-être qu'il ne faut pas le demander à tout le monde. Peut-être qu'il faut le demander aux gens qui peuvent, comme moi.
Mais sauf que quand tu demandes à chacun, chacun trouve que son métier est très pénible.
Oui, mais chacun est très rivé sur son nombril et à un moment, on a quand même un système à sauver. Quoi.
Et tout le monde ne peut pas bosser jusqu'à 70 ans.
Gouverner, c'est choisir et c'est renoncer.
Voilà.
Alors, on est avec Prisca Thévenot, elle est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parle de cette réforme des retraites. Elisabeth Borne a dit, bon, c'était un peu nébuleux, hein, qu'une décision serait prise avant la fin de la semaine, mais on ne sait toujours pas quelle décision, elle passe en force ou pas?
Écoutez, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas du tout de passage de cette réforme. Parce que je vous écoutais attentivement, Madame Denis, et puis votre invité, je suis désolée, je n'ai pas entendu le nom, sur ce qu'on y met en réalité. Et en fait, on y met exactement ce que vous avez dit, l'une et l'autre. C'est-à-dire permettre l'augmentation des pensions minimales qui aujourd'hui sont trop faibles. Elles sont trop faibles. Mais également permettre de mieux prendre en compte les carrières longues que vous disiez justement, mais également les carrières pénibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le système actuel. Donc il va falloir la réformer, ce système de retraite. Maintenant, l'enjeu est de savoir sous quelle modalité, sous quelle temporalité. Et là, je me permets de dire que ce soit aujourd'hui ou dans 3 mois, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a besoin de 3 mois, 6 mois, 1 an de plus pour discuter, concerter, consulter. Ça fait 15 ans.
C'est important quand même de discuter.
Ça fait 15 ans qu'on parle de cette réforme des retraites.
Oui, mais elle avait été abandonnée à un moment. Donc là, tout d'un coup, c'est une autre réforme. Cette réforme, elle n'a rien à voir avec celle qui était prévue avant le Covid. Donc il faut rediscuter, ça paraît logique.
Vous avez tout à fait raison. Et heureusement qu'on est capable d'être agile et de se dire, on prend aussi les enseignements des crises qui sont devenues devant nous. La crise Covid nous a justement rappelé qu'on avait des pensions trop faibles. La crise Covid nous a justement rappelé qu'il y avait des professions, notamment nos fameuses premières lignes, dont on ne parle plus du tout. Mais nos premières lignes, quand elles arrivent à la retraite, elles arrivent dans un système profondément dur pour elles.
Oui.
Et bien ça, il faut le regarder, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que, effectivement, la réforme telle qu'elle veut être menée aujourd'hui n'a plus tout à fait la même tête qu'il y a quelques années, parce que nous prenons en compte les enseignements que les crises nous ont montrés. Donc oui,
faut mais dans ces cas-là, il suffit de légiférer sur la pénibilité et on n'est pas obligé de légiférer sur le recul de l'âge de départ à la retraite. En fait, c'est deux sujets différents.
Oui et non, parce qu'en fait, l'argent magique, je suis désolée de le dire ici, mais n'existe pas. Et que tout ça est un coût. Donc soit on fait en sorte de légiférer sur les pénibilités, sur l'augmentation des pensions minimales de retraite, sur les carrières longues, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on cotise encore plus quand on est en train de travailler, donc on met ça sur le coût du travail, alors on veut baisser la fiscalité et les impositions sur ceux qui travaillent, ou alors on décide d'être moins visionnaire et de ne pas augmenter les pensions minimales. L'argent magique n'existe pas. Donc oui, cette réforme que nous voulons mettre et mener à bien a un coût, et ce coût, il faut l'avoir sur un allongement avec la date de départ à la retraite qui sera plus âgée, sachant que, soyons très clairs, de toute façon, on rentre aujourd'hui plus tard dans le marché du travail. Donc, en réalité, il faut aussi pouvoir prendre en considération ces évolutions.
Ouais, mais on vit pas forcément plus longtemps en bonne santé. C'est-à-dire que c'est un âge qui stagne depuis quelques années. Donc, en fait, plus vous reculerez, moins on pourra, moins on pourra profiter de notre retraite quelque part.
Eh bien, ça va aussi avec d'autres aspects que nous sommes en train de mettre en place, notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est les fameuses 3 consultations aux âges clés de la vie pour justement être plus que dans du soin curatif, mais dans de la prévention, oui, de l'anticipation. Donc, encore une fois, c'est multifactoriel. Je dis pas ça parce que c'est un totem. Le sujet n'est absolument pas un totem. Mais quand on était en pleine période de Covid et qu'on voyait nos premières lignes partir à la retraite dans un système complètement égalitaire et complètement, pour le coup, dur pour eux, la question ne se posait pas. Je suis assez étonnée qu'on ait aujourd'hui oublié ça. Il faut qu'on puisse avancer dessus.
Alors, très rapidement, Jérôme Lavrieux.
Oui, moi j'entends ce que vous nous dites en disant qu'il faut une réforme plurifactorielle, multifactorielle. Donc une réforme ambitieuse. Donc ça ne peut pas rentrer par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce qu'un seul amendement ne peut pas résoudre tout ce que vous venez de nous dire sur la pénibilité, les petites retraites, ceux qui étaient en première ligne. Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans un amendement. Donc il n'y aura pas, selon vous, d'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais un texte de loi global qui devrait être discuté ultérieurement. J'en déduis ça de ce que vous venez de nous dire.
Alors en fait, c'est ni noir ni blanc. De toute façon, on ne peut pas tout mettre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sinon, ça serait considéré comme pas dans le bon texte, le bon véhicule législatif.
Et un cavalier législatif.
Exactement, monsieur. On dit la même chose. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que ça puisse avancer dans le meilleur véhicule législatif, que ce soit un amendement ou d'ailleurs une discussion plus large dans le cadre d'un texte plus large, mais il faut qu'on avance. Et c'est ça, en réalité, aujourd'hui. Je vous le dis franchement, vous devez le voir quand vous êtes en dehors de vos chaînes de radio. Les Français, ils veulent que ça avance. Maintenant, il faut que ça avance.
Prisca Thévenot, non, les Français, ils veulent pas que ça avance. Ils veulent le statut.
Minimum de retraite, ils veulent pas.
Ils veulent, mais travailler plus, ils veulent pas. Ça, je vous le dis.
Mais ils veulent pas qu'on augmente les cotisations non plus, qui sont déjà à un niveau hallucinant en France.
Ah oui, mais alors, attendez, madame, vous dites tout et son contraire.
Ah, pas
ils
du tout.
Ils veulent qu'on puisse augmenter, si. Vous dites, ils veulent, je vais expliquer, du coup. Mmh. Tout le monde veut, et j'espère, qu'on augmente les pensions minimales de retraite, mais comment on finance ça?
Attendez, mais ça, c'est votre problème, pas le mien. Si, je suis désolée, moi, je suis pas au gouvernement.
C'est tous les Français, madame. C'est votre problème aussi.
Non, mais d'accord, mais là, vous me dites, mais vous prenez ce qui vous arrange en me disant, les Français veulent augmenter les pensions de retraite. Bah oui, et puis si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez augmenter les salaires, bah oui, la réponse sera oui. Ça, c'est, je connais personne qui le veuille pas. Mais sauf que si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez travailler plus pour augmenter les petites pensions, je suis pas du tout sûre que le résultat sera le même. Donc, en fait, vous pouvez pas prendre que ce qui vous arrange, en fait.
Non, c'est pas c'est ce qui nous arrange. C'est-à-dire, avoir un discours politique, c'est avoir un discours en responsabilité. L'argent magique n'existe pas. Je suis navrée.
Je suis d'accord.
On peut pas dire qu'on veut partir en vacances si on travaille pas pour essayer de financer, économiser pour partir en vacances. Je pense que c'est aussi ça, de pouvoir avoir un discours. Alors, c'est pas facile à le dire, parce que c'est pas forcément agréable à entendre.
Tout à fait.
Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de le dire aujourd'hui. Que oui, nous voulons un système de retraite plus égalitaire, qui prenne en compte les pénibilités, qui augmente les pensions minimales, qui prenne en compte les carrières longues.
Et qui oblige à travailler plus longtemps.
Mais ça a un coût. Alors, soit on décide qu'on impose ça aux gens qui travaillent aujourd'hui, et donc, le fruit de leur travail va leur rapporter moins. C'est pas notre objectif, c'est pas notre vision, ça peut être une vision partagée ailleurs, mais ça n'est pas la nôtre. Soit on dit, eh ben oui, on recule l'âge de départ à la retraite.
D'accord.
Parce que factuellement, on rentre plus tard sur le marché du travail et qu'on espère vivre plus longtemps. Et effectivement, je vous rejoins, vivre mieux plus longtemps.
Bah, ce serait mieux. Rapidement, Périco.
Madame Thévenot, il n'y a jamais aussi peu eu de consensus sur ce dossier essentiel et brûlant. Et en plus, vous n'avez pas la majorité absolue. Vous êtes en train de jouer aux apprentis sorciers. Vous savez très bien que ça ne peut pas bien finir. Aucune des conditions d'une négociation à l'amable et d'un consensus n'est réunie. Aujourd'hui, je parle de cette semaine. Voilà. Mais si le président de la République et le Premier ministre disent on passera, on trouvera une solution avant la fin de la semaine, je pense que vous exposez à de sérieuses déconvenues. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça marche. Je vois pas comment vous pouvez arriver dans le contexte actuel.
Merci en tout cas, Prisca Thévenot, d'avoir été avec nous, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On va prendre Christophe tout de suite, qui nous a appelé au 3216 et qui nous appelle de Guéret dans la Creuse. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur RMC, premier auditeur de la semaine, Christophe. Est-ce que vous avez été convaincu par ce que vient de nous dire Prisca Thévenot, à savoir que cette réforme, elle est absolument nécessaire et qu'il faudra travailler plus?
J'ai bondi quand je l'entendais parler. C'est pas possible d'être aussi buté ou borné, je ne sais pas, que ça. La réforme, je suis pas sûr qu'elle soit nécessaire. Encore une fois, pourquoi? Si c'est pour augmenter les petites retraites, pourquoi pas? Mais je rappelle aussi qu'il y a des gens qui ont toutes les annuités, qui arrivent à 42 ans d'annuité, mais qui n'ont pas le minimum vieillesse parce qu'ils n'ont pas l'âge. C'est-à-dire que le minimum vieillesse, c'est à partir de 65 ans. Donc, il y a des gens qui partent en retraite à 62 ans, ils se tapent 800 euros de retraite, mais il faut qu'ils attendent encore 3 ans avant de toucher le minimum vieillesse. Donc ça, il faudra peut-être déjà faire un effort là-dessus, et je pense que ça irait déjà mieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15% de pauvres en France. Enfin, je veux dire,
Mais ils sont majoritairement parmi les jeunes et pas parmi les retraités. Christophe, est-ce que vous voyez travailler jusqu'à 65 ans? Je crois que vous êtes très jeune, hein, Christophe, mais
oui,
même au-delà.
Je suis très jeune, mais merci. Je me vois pas. Moi, j'ai la tête dehors tous les jours, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui est du soleil. Enfin, c'est pas des métiers. Les métiers extérieurs, on peut pas se permettre ça. Et puis encore une fois, le pourquoi du comment. S'il manque de l'argent, l'argent il est facile à trouver. La GIRC Arco, c'est 3 milliards d'excédents cette année. Le corps a dit, le truc à Monsieur Jospin, c'était 30 milliards. La fraude aux prestations sociales, ça peut rapporter 50 milliards. La fraude aux prestations sociales,
mais ça demande
le moyen. 80 milliards. Si on se donne les moyens, il y a moyen de faire les choses sans casser un modèle social, je pense.
Merci Christophe en tout cas de nous avoir appelé au 3216. Christophe qui nous appelait de la Creuse. Ah, un breton, c'est Mathieu qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour. Mathieu, vous faites quoi dans la vie?
Je suis routier.
Ah bah écoutez, super. Et vous êtes prêt à travailler jusqu'à 65 ans, Mathieu?
S'il faut, oui. Alors, je suis d'accord avec sur certaines choses, sur certaines réformes que l'auditeur d'avant, Pierre, je crois que c'est ça.
Christophe.
Christophe, voilà. Après, c'est pareil, il disait qu'il est dehors. Toute sa vie que c'est un métier pénible. Son métier, il n'a jamais été couvert. Un maçon, quand il commence à travailler à 16 ans, son métier sera aussi pénible plus tard. Je pense qu'il y a un moment, il faut dire, nos anciens, ils ont bien profité de leur retraite, profité du système. Peut-être que le système a été mal fait et que, il serait peut-être temps de le réformer. Certes, il y a la réforme du des retraites à refaire pour que, bah, pour justement, pour nos enfants plus tard puissent profiter encore de ce système-là, de la retraite. Mais il y a aussi peut-être le système aussi du chômage où il faudrait peut-être insister pour mettre les Français au travail, qu'il faudrait peut-être
Alors, je voulais juste préciser qu'en Allemagne et en Suède, l'âge de départ à la retraite est de 67 ans et ça se passe bien.
Voilà.
Rien à voir avec nous.
Moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans et demi. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi à 16 ans. Moi, s'il faut aller jusqu'à 65 ans.
Vous avez été routier à 15 ans et demi, Mathieu, ça m'étonne.
Non. Quand j'ai commencé, j'ai un premier métier, j'ai fait boucher.
Voilà,
j'ai commencé en tant que boucher. J'ai fait de la boucherie pendant 15 ans. Après, voilà, j'ai eu des choix à faire. Si, soit je continuais à la boucherie ou soit je partais dans autre chose. J'ai voulu voir autre chose. Je suis parti routier. Et voilà. Et puis, vous savez, dans les routiers bénéficient d'un système de retraite spéciale, s'appelle le CFA. Ouais. Les routiers peuvent partir au bout de, je sais plus, je vais dire des conneries, mais je crois que c'est 20 ans ou 25 ans de grande route, peuvent partir à 57 ans à la retraite. Il y a beaucoup de routiers qui partent à 57 ans à la retraite et qui reviennent à 62 ans parce que pendant 5 ans, ils peuvent pas travailler, qui reviennent à 62 ans travailler sur les routes parce qu'ils touchent rien à la retraite, parce qu'ils n'ont pas assez.
Bien sûr.
Donc il y a quand même un souci là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de cotisants en mettant les Français au travail aussi, parce que
c'est aussi une solution.
J'ai croisé une personne, un jeune, la dernière fois, un boulanger. Le mec, je fais, tu travailles dans quoi? Il fait, je suis boulanger, là, tu travailles où? Je fais, non, je suis à la maison, je suis au chômage. J'étais étonné, je fais, mais il n'y a pas de boulot? Si, mais bon. Oh, c'est pénible et tout. Je fais, je sais pas, non. Dans ces cas-là, le métier de boulanger, tu savais dès le départ que tu te lèves à minuit, que t'as des journées de merde et que t'as pas de week-end, quoi.
C'est une belle vision du métier, Mathieu.
Mais
pourquoi il y a de grands boulangers?
Quand on choisit un métier et qu'on se donne à fond dans ce métier-là, c'est parce qu'on aime ce métier.
Mais vous avez raison, Mathieu, mais il y a des gens qui malheureusement, Mathieu, vous avez choisi votre métier, moi aussi, mais il y a des gens qui ne choisissent pas leur métier et qui font
que
leur
pour
métier
cotiser pour aller en vacances, pour certains.
Mais effectivement, après, Mathieu a raison, plus il y aura de gens qui travailleront et moins on sera obligé.
Mais c'est le sens de l'histoire quand même. Portugal, Italie, 66 ans. Donc je disais, la Suède va voter pour 69 ans. Oui. L'Espagne va passer à 67 ans dans les 5 ans qui viennent, pardon. On est dans le sens de l'histoire. On est tous en train de faire pareil, hein.
Allez, on a fait un sondage sur le compte Twitter de l'émission @EstelleMidi. Le gouvernement doit-il foncer sur la réforme des retraites, Thibault?
Et vous êtes non à penser que vous êtes 72% à penser que non, le gouvernement ne doit pas passer en force via le 49.3 pour cette réforme des retraites.
Vous avez des messages, Thibault?
Oui, j'ai des messages, notamment Julien qui lui dit il faut foncer parce que la réforme des retraites est nécessaire, ne serait-ce que pour trouver des financements pour faire face à l'entrée dans le grand âge et la dépendance de la génération du baby-boom.